Que le Seigneur soit présent, c'est une réalité. Qu'il ouvre nos cœurs, c'est un grand besoin. Qu'il ouvre nos cœurs, nos oreilles, et que son esprit dirige tout ce soir. Je vous propose deux petites lectures pour commencer. La première dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 38. C'est Jésus qui parle. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » N'oublions pas que c'est Jésus qui a dit cela, et ce n'est pas pour n'importe quelle raison qu'il l'a prononcé. Allons maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, et lisons à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il n'y a aucun doute, mes frères et sœurs, nous savons qu'aucune parole n'a été prononcée par hasard. Jésus n'a pas dit cela et aujourd'hui il améliorerait ou modifierait ou dirait les choses d'une autre manière. Nous savons que toutes les paroles prononcées par Jésus étaient en réalité dictées par Dieu, inspirées par Dieu, et que c'était des paroles extrêmement senties, voulues. C'est bien cela que Jésus a voulu dire, priez, priez en tout temps, parce qu'il y a une menace importante sur le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu qui ne prie pas ne se sortira pas de la menace. C'est cela que Jésus a dit. Et non seulement il dit prier en tout temps, mais il explique qu'il s'agit de prier parce que nous ne pouvons pas compter sur nos résolutions. Nous ne pouvons pas compter sur notre caractère, sur notre bonne volonté. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jésus sait qu'un moment ou un autre, c'est la chair qui gagnera. C'est pour cela qu'il dit veillez et priez. Et ce soir, le but de ce message, c'est que nous comprenions les uns et les autres que nous sommes en danger dès que nous cessons de prier. Mais que si nous avons une vie de prière personnelle, une vie de prière certaine et sérieuse devant Dieu, alors nous rentrons dans le plan de Dieu et nous ferons avec la grâce de Dieu ce que le Seigneur nous demande. Ces phrases s'adresser aux disciples qui étaient là, aux premiers disciples, au premier auditoire de Jésus. Mais pas la peine que j'insiste beaucoup, vous savez qu'elle s'adressait aussi aux premiers chrétiens, à ceux qui ont suivi les premiers disciples, les premières années après. Et ces phrases s'adressaient aussi aux chrétiens suivants, du premier, du deuxième, du troisième siècle. Et puis ces phrases se sont adressées à tous les gens qui de tout temps ont lu la Bible ou ont entendu parler du Seigneur Jésus. Elles s'adressaient à tous les croyants, elles leur disaient « veillez et priez » parce qu'il n'y a pas une autre solution pour rester debout. Et puis on sait aussi que cette phrase de Jésus s'adresse à tous les chrétiens d'aujourd'hui. C'était vrai du temps de Jésus, mais c'est encore plus vrai, je ne sais pas s'il faut dire cela, mais c'est vrai aussi, c'est entièrement vrai pour l'Église de notre siècle actuel, de notre mois, de notre année actuelle. L'Église a besoin d'avoir une vie de prière. Jésus l'a ainsi dit. On comprend, et c'est facile, que Jésus ne s'adressait pas au cerveau, ce sont des phrases que le cerveau peut enregistrer facilement, mais que le Seigneur s'adressait à l'âme, au cœur. Et que si c'est facile de l'enregistrer avec le cerveau, c'est beaucoup plus facile de le faire pénétrer dans le cœur et de laisser cette phrase descendre dans notre cœur. Jésus a dit « Veillez et priez ». Il y a des raisons pour cela. Une de ces raisons, c'est que un jour viendra à l'improviste, comme un filet. Vous savez, quand Jésus dit comme un filet, c'est le chasseur qui a préparé son filet. Les oiseaux ne voient pas du tout ce qui va leur arriver. Et quand ils voient le filet, c'est trop tard. Parce qu'il était invisible, il a été lancé, et ce filet est un piège pour eux. Et Jésus insiste, il dit, il y a un jour difficile qui viendra à l'improviste, et si vous voulez être prêt lorsque ce jour viendra, vous devez avoir une vie de prière. Et vous devez savoir, tandis que vous avez une vie de prière, que si un jour vous arrêtez cette prière, vous vous mettez en grand danger. Si un jour vous cessez d'avoir des relations avec le Seigneur et de ne plus le prier, vous vous mettez en grand danger. Ce grand danger qui menace toute la terre, en réalité menace tous les hommes de toute la terre. La phrase qui est prononcée par Jésus est très claire, elle dit « Tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre ». Personne n'y échappe. C'est une phrase qui s'adresse à nous, qui s'adresse à nos familles, qui s'adresse aux hommes de cette ville, aux habitants de cette ville. C'est une phrase qui concerne tous les habitants de notre globe. Jésus a dit « tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre ». Le risque, c'est qu'ils ne soient pas prêts. Le risque, c'est qu'ils soient surpris, qu'ils se soient laissés enivrer par toutes sortes de choses, gagnés et étouffés par toutes sortes de soucis. Et Jésus dit, il y a une solution, mais je n'en connais pas une seconde, il n'y en a qu'une, veillez et priez. C'est comme si Jésus disait, celui qui n'est pas sur ses gardes ne sera pas prêt. Ou celui qui s'enivre de mondanité ne sera pas prêt. Ou celui qui se laisse écraser par des soucis, Jésus l'a dit, les soucis de la vie, ne sera pas prêt. Et Jésus renferme tout cela dans cette phrase, « Celui qui n'a pas une vie de prière ne sera pas prêt ». Mes frères et sœurs, puisque nous sommes là ce soir, c'est que nous aimons le Seigneur, c'est que nous avons compris les prophéties du Seigneur, c'est que nous acceptons les paroles du Seigneur, eh bien ce soir faisons nôtre cette phrase, cet avertissement de Jésus, faisons le nôtre, comme si nous avions devant nous un médecin qui nous dise, eh bien, le jour où vous cessez de prendre telle chose, votre vie est en danger. Nous accepterions et nous tâcherions de ne jamais oublier de prendre ce dit médicament, par exemple. Eh bien, de la même manière, nous avons en face de nous un Seigneur qui nous dit, le jour où vous cessez de prier, vous serez en grand danger. Si je veux vous exhorter de cette façon, mes frères et sœurs, ce soir, c'est qu'il y a deux raisons réelles, deux raisons profondes, pour que nous ayons une vie de prière personnelle. Deux raisons profondes. La première de ces raisons, c'est que Jésus ne nous indique pas une seconde méthode. Jésus ne nous donne pas un deuxième chemin. Jésus est clair, il est formel. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et je peux en déduire, sans aller très loin, que si je ne veille pas, si je ne prie pas, ce sera cette année, ce sera l'an prochain, ce sera un peu plus tard, mais je tomberai vaincu par la tentation, aspiré par le monde, happé par les méthodes du monde. Jésus est clair, il n'y a pas un deuxième moyen pour échapper, pour rester debout. Il faut avoir une vie de prière. La deuxième raison, que nous verrons un peu plus loin, c'est que l'adversaire manipulateur du filet, vous savez, celui qui jette le filet et qui cherche à nous piéger, n'abandonne jamais. et sa haine contre l'Église et sa convoitise contre le trône de Dieu dépassent toute mesure. Ne comptons pas sur l'adversaire pour abandonner, il n'abandonnera jamais. Alors, à cause de ces deux raisons, nous devons veiller et prier. Bien entendu, Satan a lu le verset 36 de Luc 21. Il le connaît. Il l'a même très bien analysé, ce verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. » Et Satan s'est dit, « Pour qu'il n'ait pas la force d'échapper, il faut que je les empêche de prier. » Voilà quelle est la stratégie de l'enfer. Nous empêcher de prier. Et quand je dis prier, je ne dis pas prier à haute voix dans une réunion de prière. Ce n'est pas du tout cela, je veux dire. C'est avoir une vie de prière personnelle. Prendre le temps de prier chez soi. Prendre le temps de s'approcher de Dieu. Mettre quelques minutes ou quelques quarts d'heure de côté pour s'approcher de Dieu et dire « Mon Dieu, je viens ». On va parler, je viens te parler de moi, des autres, de mes besoins, des problèmes de l'Église. Je viens te demander du secours, de la grâce. C'est la prière personnelle dont il s'agit. Et Satan, qui a lu ce verset 36, en a conclu qu'il fallait donc nous empêcher de prier, qu'il fallait donc décourager l'Église de prier. Vous l'avez remarqué, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui arrête à la prière chez un chrétien. Est-il découragé? Aujourd'hui, il n'a pas envie de prier. A-t-il commis une faute? Aujourd'hui, il n'a pas envie de prier. Il tâchera de le faire demain. A-t-il des soucis, des tracas? Aujourd'hui, il n'a pas envie de prier. Passe-t-il par l'épreuve et son chemin est-il un chemin difficile? Aujourd'hui, il n'a pas envie de prier. Lorsque les choses iront mieux, lorsque le fardeau sera moins lourd, il reprendra sa prière. Ça, c'est parce que Satan a lu le verset 36. Tout amène le chrétien à suspendre sa prière. Et pourtant, la prière a des effets extraordinaires. Et c'est cela qu'il nous faut saisir et comprendre. La prière a des effets extraordinaires. Peut-être que quelqu'un va dire « Oui, mais moi je prie et puis Dieu ne m'exauce pas ». Si je prie le Seigneur, garde-moi de la tentation. Si je prie le Seigneur, garde-moi de la tiédeur. Si je prie le Seigneur, garde-moi du découragement. Si je prie le Seigneur, tiens-moi debout. Donne-moi d'être de plus en plus pieux. Donne-moi la crainte de ton nom. Je suis sûr que ce sont des prières que le Seigneur exauce. Je suis persuadé que ce sont des prières qu'il entend, qu'il écoute. La prière nous garde des attraits du monde. La prière remplit notre cœur de la présence de Jésus. La prière regonfle notre âme. La prière charge notre lampe d'huile. Vous savez, ces jeunes filles qui allaient vers les noces et quelques-unes avaient les lampes vides. Elles n'avaient pas pris de l'huile. Eh bien, on peut dire, je crois, je ne dirai pas que ce n'est que cela, mais la prière remplit la lampe d'huile. Elle recharge la lampe. Et quelqu'un qui ne prie pas, sa lampe est vide. Elle est aussitôt en danger. Le découragement est là. L'épreuve est trop difficile. Le chemin est trop compliqué. Les ornières sont trop profondes. La prière est efficace pour nous tenir debout devant le Seigneur. Frères et sœurs, c'est peut-être presque une lapalissade que je vais prononcer. Plus nous allons, plus le monde avance. Plus les jours passent, plus nous avons besoin de nous tenir au pied de Dieu et de prier personnellement le Seigneur. Et plus nous devons savoir avec notre raison et notre sagesse naturelle que si nous arrêtons la prière, nous sommes aussitôt en très grand danger. Vous avez remarqué que Jésus a dit « Priez en tout temps ». Alors c'est une phrase qui fait peur. Vous dites oui, « Priez en tout temps », ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais de prier. On ne peut rien faire d'autre, toujours prier. Non, ce n'est pas du tout ce que Jésus a voulu dire. Prier en tout temps, c'est prier, d'abord tout, c'est écrit T-O-U-T, c'est prier dans les temps de réussite et dans le temps des échecs. C'est prier dans le temps de calme et dans le temps d'épreuve. Nous ne devons pas prier rien que lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous sommes en danger à ce moment-là. Prier en tout temps, c'est prier quand nous sommes dans une oasis ou bien quand nous sommes dans le désert. Car les chrétiens n'est pas toujours près d'une oasis. Quelquefois, ils se retrouvent sur des chemins du désert, des chemins difficiles. La tempête souffle, comme nous l'avons chanté, et il doit prier. Mais lorsque la tempête a fini de souffler, il continue de prier, il continue de s'approcher de Dieu. Prier en tout temps, ça veut dire prier lorsque nous avons de la communion les uns avec les autres, lorsque les choses passent bien, prier lorsque nous sommes dans la solitude. Et lorsque nous ne sentons personne nous approuver, personne nous aider, nous tendre la main, nous sommes que nous sommes seuls, eh bien c'est le moment de prier. Frères et sœurs, il faut toujours prier. Prier en tout temps, c'est cela qu'a voulu dire le Seigneur. Il ne nous supprime pas les plaisirs sains de la vie. Il ne nous supprime pas des lectures autres que la Bible ou des promenades ou des choses qui pourraient nous intéresser. Quand il dit en tout temps, il dit qu'un chrétien doit toujours se recharger devant le Seigneur. Il doit toujours recharger son âme de la présence de Dieu. Vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, vous avez accepté la parole de Dieu comme étant inspirée et éternelle. Maintenant, battons-nous, battez-vous pour avoir une vie de prière. Battez-vous, frères et sœurs, pour ne pas laisser Satan vous enlever la prière avec le Seigneur. Et chaque fois qu'une chaise est vide, vous pouvez dire... C'est une personne qui avait cessé de prier, qui avait arrêté sa prière. Battons-nous ensemble pour revenir vers une vie de prière. Si nous avons abandonné, si nous avons laissé, si nous avons délaissé la présence de Dieu, eh bien, cherchons cette présence, mais marchons avec le Seigneur et restons dans sa présence. Il y a une deuxième raison pour avoir une vie de prière. La deuxième raison, c'est... l'effort du manipulateur, de celui qui jette le filet. J'ai dit qu'il avait une colère qui ne s'arrêtait jamais, une haine indicible contre le peuple de Dieu et une convoitise inimaginable du trône de Dieu. Satan convoite le trône de Dieu. Et comme nous savons qu'il ne cessera jamais, nous devons nous préparer dans la prière. Je voudrais que nous fassions ensemble une lecture pour arriver dans ce deuxième sujet, dans Exode chapitre 17. Passage très connu, ce n'est pas parce qu'un passage est connu qu'il ne faut plus le lire. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant d'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel, lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » C'est un passage historique, mais c'est aussi un passage très spirituel. Du point de vue historique, c'est une lutte entre le peuple d'Israël et un peuple voisin, peuple qui n'a jamais cessé et qui... c'est prophétisé ici, aura lieu de génération en génération. Au point de vue spirituel, c'est une image très bien réalisée de la guerre incessante entre notre ennemi et le peuple de Dieu. L'ennemi qui a levé la main contre le trône de Dieu. Et une seule solution a été trouvée, importante, tellement importante que Dieu dit « écris-le dans un livre pour qu'on s'en souvienne », la solution, c'est que Moïse devait lever ses mains vers le ciel, et quand ses mains étaient levées, son peuple gagnait. Quand il baissait les mains, son peuple perdait. C'est une allégorie magnifique de la prière, une image de la prière. Dieu veut spirituellement que l'Église sache que tant qu'elle prie, elle permet la victoire, et quand elle ne prie plus, elle laisse venir la défaite. Dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie, dans notre Église, partout, la défaite peut venir lorsqu'il n'y a plus de prière. Peut-être je serai un peu plus concret si je formulais tout ce qu'on vient de lire de la façon suivante. De la même manière que le peuple juif a été en lutte de génération en génération contre Amalek, de la même manière le peuple de Dieu sera en lutte de génération en génération contre un autre Amalek qui s'appelle l'adversaire, celui qui veut monter sur le trône de Dieu, Satan qui cherche à nous priver de la foi. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous vous êtes probablement rendu compte combien de fois il y a eu des combats entre Israël et Amalek. Par exemple, lorsque Samuel a été prophète et qu'il a nommé Saül comme premier roi d'Israël, une des premières choses que Samuel a ordonné à Saül, c'est de lever l'armée et d'aller combattre Amalek. Et on est étonné, en lisant dans le livre de Samuel, que Saül a fait ça très mal, en moitié. Il a protégé le roi, il ne l'a pas tué, il a protégé des gens qu'il ne voulait pas tuer. Enfin, il n'a pas rempli la mission qui lui avait été donnée. Et on se rend compte que plus tard, c'est un Amalécite qui a tué Saül. Et on se rend compte, en lisant la Bible, que les guerres entre Amalek et Israël ont été extrêmement nombreuses. Par exemple, dans le livre d'Esther, dont on ne parle pas souvent, mais qui existe, au chapitre 3 du livre d'Esther, j'aimerais que nous le lisions, ce chapitre 3. Il nous est dit ceci. Il y a des choses étonnantes. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata l'Agagite. Aman était un descendant d'Amalek. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais si vous allez au chapitre 2, verset 5, vous verrez que lui était un descendant de Saül. Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter sa main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Voilà, toujours la guerre. Historiquement, c'est la lutte entre ces deux peuples, mais spirituellement, on peut dire que le Aman actuel veut détruire le peuple de Dieu entièrement. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Pour ceux que ça intéresse, c'est de la mi-février à mi-mars. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son manteau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec le nom du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et que leurs biens fussent livrés au pillage. J'insiste, frères et sœurs, spirituellement, tout ça, c'est encore valable. Spirituellement, de même qu'on voit que Aman est prêt à payer et à donner des fortunes pour réaliser sa haine contre le peuple d'Israël, de la même manière, Satan est prêt à tout pour faire disparaître les chrétiens, les faire disparaître. Ces lettres renfermaient, verset 14, une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. Si vous lisez le livre d'Esther, vous verrez que rien ne s'est passé comme cela avait été prévu, parce que Mardoché a usé de la prière. Mardoché, ce descendant de Saül, a usé de la prière. Il a cherché Dieu, et Dieu s'est manifesté, pas comme Aman l'avait prévu. Dieu est intervenu. La prière a une puissance extraordinaire. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie sans prier. Peut-être que vous faites partie, vous, de cela. Il y a des gens qui ne prient que de temps en temps, à la va-vite, rapidement. Ils disent bonjour au Seigneur et en même temps au revoir. Mais Mardoché, lui, s'est tenu devant Dieu pendant des jours. Il a prié et il a remporté la victoire. Et rien ne s'est passé comme cela avait été prévu. Et à la fin du livre d'Esther, écoutez-le bien parce qu'il y a un détail après qui sera important. Mardoché, avec la reine Esther, ont institué une fête chez les Juifs qui s'appelle la fête des Purim et qui se fêtait dans ce mois d'Adar entre le 15 février et le 15 mars. Une fête en souvenir du triomphe que Dieu leur avait donné. Peut-être ne savez-vous pas qu'il y a quelques années, il s'est passé exactement la même chose en Russie. Exactement la même chose. Il y avait en 1953, après la guerre, un homme en Russie qui s'appelait Joseph Staline et qui avait une haine contre le peuple de Dieu démesurée. Une haine contre tout ce qui rappelait Dieu et une haine immense contre les Juifs. Et Staline a imaginé l'histoire, ou les dictionnaires vous appelleront ça le complot des blouses blanches, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Staline avait imaginé de faire disparaître en un seul jour les 3 millions de juifs qu'il y avait en URSS. Et il a fait un complot contre eux en prétextant que les médecins juifs de Moscou avait préparé toutes sortes de complots contre les Russes et il s'agissait de tuer tous ces médecins russes et il avait prévu de les pendre sur la place Rouge à Moscou le 9 mars 1953. Il voulait déchaîner la haine du peuple contre les Juifs et il avait prévu que sur les 3 millions de Juifs, 2 millions seraient lapidés, seraient tués, les autres, il les emmenait en Sibérie, où il allait les abandonner. Et rien ne s'est passé comme il avait prévu. Il a réuni son bureau politique le 1er octobre 1953. Il leur a dit ce que je viens de vous dire. Il leur a dévoilé son plan pour faire disparaître tout ce qui était juif en URSS. Et Savez-vous ce qui s'est passé le 9 mars 1953? Quelqu'un le sait-il? Les funérailles de Staline. Il n'avait pas prévu ça. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a prié. Il y a peut-être des gens qui ont prié. En tout cas, il y a un Dieu qui a entendu. Staline a réuni son bureau politique le 1er et le 2, il était mort. Et toute la semaine, ça a été les préparatifs. Et le 9 mars, c'était la fête des Purim. Car Staline avait choisi de faire disparaître tous les juifs du RSS pendant cette fameuse fête des Purim que nous retrouvons dans le livre d'Esther. Il voulait démontrer que tout cela ne servait à rien et lui, il avait choisi la fête du 9 mars, fête des Purim, pour faire disparaître le peuple juif, les juifs du RSS. Le 2, il était mort, le 9, c'était ses funérailles. On ne sait pas. Peut-être quelqu'un a prié. Il y a peut-être eu des mardochés qui ont prié. Des gens inconnus aujourd'hui qui ont prié, qui se sont tenus devant Dieu. Et Dieu est un Dieu qui dirige le monde, un Dieu qui gouverne. En guise de conclusion, je voudrais que nous revenions au début de mon message et que nous lisions dans Luc chapitre 22, le verset 32. Luc 22, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Jésus dit cela à Simon. Il dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Il avait réclamé les autres aussi. Et Jésus ne dit pas à Simon qu'il n'a prié que pour Simon. Mais il dit à Simon, j'ai prié pour toi. Ça n'intéressait pas les autres de savoir pour qui Jésus avait aussi prié. Et ce n'était pas le problème de Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Jésus aurait pu dire à Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour qu'il vous laisse tranquille. Vous ne serez pas criblé. Jésus a laissé cela, a laissé l'adversaire cribler les disciples. Jésus n'a pas prié pour que les disciples échappent à cette épreuve. Jésus a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Frères et sœurs, c'est une raison pour laquelle nous devons prier. Vous pour moi, moi pour vous, les uns pour les autres, pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pour ceux que nous pensons être dans la difficulté, pour ceux qui traversent des moments difficiles. Prions les uns pour les autres. Non pas pour que Dieu nous donne des choses agréables, pour que Dieu nous enrichisse, que Dieu remplisse nos poches. Prions pour que notre foi ne défaille point. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. C'est une raison importante. L'adversaire nous a réclamé parce que l'adversaire veut prendre la place du trône de Dieu. Et on voit même dans le livre des Thessaloniciens, lorsqu'il nous est parlé de l'Antichrist, il nous est même dit qu'il finira par rentrer dans la maison de Dieu et s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est ce qu'il veut, Satan, depuis le départ, détrôner Dieu, prendre la place de Dieu. Et Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Nous devons prier les uns pour les autres. Cela est important. Vous devez prier pour vous chaque jour. Vous devez prier pour que Dieu vous remplisse votre âme, que Dieu vous aide, que Dieu fasse de vous de véritables disciples, de véritables croyants, et votre âme se recharge, même sans que vous vous en rendiez compte. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, garde-moi de la tentation, délivre-moi du découragement, aide-moi à passer sur les chemins, même s'ils sont difficiles, à rester ferme avec toi. Seigneur entend ces prières et notre lampe se remplit d'huile et cela nous permet d'aller plus loin. Attention que l'Église sache que dès l'instant qu'elle cesse de prier, elle tombe en grand danger. Dès l'instant que quelqu'un dit « Oh, moi j'arrête, je suis découragé », alors à partir de là, il y a possibilité de tomber et de ne pas être prêt lorsque le Seigneur reviendra. Vous savez que le Seigneur doit revenir. Vous savez qu'il viendra à l'improviste. Et que même si c'était pendant une réunion, nous serions tous surpris. C'est pas vrai, ça? même si le Seigneur revenait ce soir, alors qu'on est en train de parler de lui, supposons une réunion où le prédicateur est en train de dire « Le Seigneur va revenir », il fait son sermon sur le retour du Seigneur, et tout d'un coup le Seigneur revient, tout le monde sera surpris. Jésus l'a dit, ce sera une grande surprise. Mais pour avoir la force, pour être prêt, il faut se tenir devant le Seigneur. Si vous n'êtes pas prêt, le Seigneur vous appelle. Si vous n'êtes pas prêt, s'il revenait ce soir et que votre place n'est pas encore faite dans le ciel, le Seigneur vous appelle. S'il revenait ce soir et que vous ne lui avez pas demandé pardon, le Seigneur vous appelle. Si ce soir il revenait et que vous avez cessé de prier, votre vie a basculé et la prière ne vous intéresse plus, le Seigneur dit « Reviens, recommence ta prière. » Parce que tant que tu pries, tu seras solide. Le jour où tu ne prieras pas, c'est ta lampe qui est vide et ce sera très dangereux. Prions, frères et sœurs, ce soir. Prions dans ce sens que Dieu nous donne un esprit de prière, qu'il remplisse nos cœurs d'amour pour lui et qu'il nous aide et que nous n'oublions jamais combien l'ennemi est haineux à notre égard. Il cherche à nous faire tomber, vous, moi, les uns et les autres. Prions les uns pour les autres pour que nous restions vainqueur. Seigneur Jésus, merci parce que tu écoutes. C'est vrai qu'avant même qu'on ait prié, tu sais exactement ce qu'on va demander. Et tu ne nous demandes pas de prier pour apprendre de nous ce que nous allons demander, tu le sais à l'avance. Mais tu veux que nous nous approchions de toi. Tu veux que nous prenions du temps, que nous laissions les choses de cette terre, que nous nous asseyions devant toi et que nous disions « Seigneur, maintenant, remplis mon cœur. Maintenant, je suis avec toi. » Tu veux que nous pensions à nos frères et sœurs, que nous prions les uns pour les autres, que nous ne soyons pas égoïstes ou personnels, mais tu veux que nous ayons de l'amour les uns pour les autres, de l'affection, de la communion, et que chaque jour nous disions tous pour les uns, pour les autres, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis celui-ci, bénis celle-là. Ô Seigneur, merci, parce que c'est ainsi que nous pouvons rester debout. Et nous voulons te supplier ce soir pour ceux qui ont abandonné, pour ceux qui ont laissé la prière, ceux qui se sont détournés, ceux qui sont tombés, ceux qui ont cessé de s'approcher de toi. Seigneur, rappelle-les, que la sagesse leur revienne, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils aient envie à nouveau de parler à Dieu et de chercher Dieu. Et puis pour nous qui sommes là ce soir et qui avons médité ces quelques versets, eh bien Seigneur, incruste-les dans nos cœurs ces versets. Qu'ils nous poursuivent toute notre vie et que nous soyons des hommes et des femmes et qu'ils ne cessent jamais de s'approcher de toi. Mais Seigneur, garde-nous de laisser la prière. Fais de nous des gens qui se tiennent devant toi et qui prient de tout leur cœur. Merci au nom de Jésus. Merci pour les délivrances que tu opères. Merci pour les miracles que tu fais, comme celui que j'ai pu citer en URSS. Merci parce que tu es le Dieu de la victoire. Merci parce que rien n'est impossible à Dieu, à condition que des hommes se tiennent devant toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour les chrétiens fidèles. Garde-les toujours fidèles. Amen.